Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info, votre bulletin d'information francophone pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine dans l'actualité. La municipalité de Yellowknife a adopté son budget 2021. Les impôts fonciers augmenteront de 2,5%. La mine Ekati, qui a interrompu ses activités en mars dernier et mis à pied plus de 300 employés, pourrait reprendre le travail très bientôt. Une vaste opération de dépistage de la COVID-19 est en branle à Yellowknife après qu'on ait trouvé des traces du virus dans les eaux usées de la municipalité. Les examens de fin d'année seront cette année facultatifs pour les étudiants des territoires du Nord-Ouest. La Commission scolaire francophone des TNO émet toutefois une mise en garde. Ma collègue IJL Marine Lobriot nous présente cette semaine un jeu vidéo conçu spécialement pour les jeunes Inuits du Nunavut. Mon collègue Denis Laure nous présente l'exposition Riopel à la découverte des paysages nordiques et des cultures autochtones. Et finalement, pour conclure cette saison 2020 de l'émission Territoire d'Info, mon collègue Baptiste Foisy nous présente un concours musical sur le thème de la santé publique. On l'apprenait ce jeudi 10 décembre en soirée vers 19h15. Il y a 5 nouveaux cas positifs de COVID-19 qui ont été identifiés à Yellowknife. Ces 5 cas sont liés à des déplacements. L'un d'entre eux est lié à un déplacement en dehors du Canada. Toutes les personnes visées se sont isolées adéquatement et se portent bien selon la santé publique. 4 des cas visent des personnes faisant partie d'un seul ménage et sont liées à des déplacements au Canada. La santé publique des TNO effectue présentement des prélèvements d'échantillons dans les eaux usées, notamment de la municipalité de Yellowknife, et a découvert très récemment des traces du virus dans ces échantillons. Notez que l'avis du 9 décembre demeure en place, comme je vais vous en parler un peu plus tard à l'émission. Toutes les personnes qui étaient en auto-isolement à Yellowknife entre le 30 novembre et le 9 décembre, sont priés d'aller passer un test de dépistage de la COVID-19 le plus rapidement possible. Les impôts fonciers de la municipalité de Yellowknife augmenteront en 2021 de 2,5%. Le conseil municipal a adopté le lundi 7 décembre un budget conçu en fonction des années à venir, en augmentant ainsi les impôts fonciers de 2,5% pour des revenus d'environ 82 millions et des dépenses d'environ près de 91 millions. La municipalité a également voulu ne pas alourdir le fardeau fiscal de plusieurs contribuables affectés par la pandémie. Le tout devra toutefois être officialisé en mai 2021 en fonction de l'allocation de financement attendue de la part des gouvernements territoriaux et fédéraux. Des ententes verbales ont été établies avec la municipalité. Le tout doit être signé dans les semaines à venir. Le Conseil a choisi cette année de consacrer une partie des revenus provenant des impôts fonciers au fonds d'immobilisation de la municipalité afin d'assurer la mise en œuvre de projets prioritaires qui devront être mis en branle dans les années à venir. On prévoit par exemple qu'environ 4,5 millions de dollars devront être octroyés prochainement pour l'aménagement d'un nouveau dépotoir. Parmi les autres investissements incontournables qui devront être engagés dans les prochaines années, on compte également l'installation de nouvelles conduites sous-marines pour la prise d'eau potable de la municipalité. Certains conseillers se sont toutefois opposés à injecter des capitaux dans le fonds d'immobilisation, plaidant pour limiter davantage la hausse de l'impôt foncier. Selon la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, il s'agit de la décision la plus importante qui a été prise dans le cadre des délibérations entre les conseillers, qui s'est étendue sur 4 jours pour un total d'environ 14 heures.
Mais il y a des projets qui sont essentiels. Donc, en 2023, on a besoin d'un nouveau espace pour le déchet et ça coûte 4,5 millions de dollars. On a aussi la ligne sous-marine d'eau qui transporte notre eau du Yellowknife River jusqu'à notre water treatment plant ici dans la ville et ça va nous coûter 9 millions de dollars. Donc, on a des grands projets qui sont essentiels et quand on n'a pas un choix, il faut qu'on fasse.
Le conseil a également choisi de couper certaines dépenses pour l'année 2021, dont celles liées au sondage annuel proposé aux citoyens qui aurait coûté 45 000 $. Les voyages à l'extérieur du territoire seront également interrompus en 2021 pour une économie de 175 000 $. Une vaste opération de dépistage de la COVID-19 est présentement en cours au territoire du Nord-Ouest. Selon une analyse des eaux usées effectuée par la santé publique, tout semble indiquer la présence d'au moins un cas non détecté de la COVID-19 à Yellowknife. Toute personne qui était en auto-isolement au TNO entre le 30 novembre et le 9 décembre est priée de passer un test de dépistage le plus rapidement possible. On demande à toutes les personnes visées par cet avis de réserver dès maintenant leur place pour un test de dépistage, idéalement en ligne ou en téléphonant au service de santé publique de Yellowknife au 867-767-9210 ou encore à un centre de santé local pour ceux qui sont maintenant dans une autre collectivité. La santé publique collabore avec le service Protégeons les TNO pour s'assurer de contacter toutes les personnes qui se sont trouvées en auto-isolement durant la période visée. Selon l'administratrice en chef de la santé publique, la Dr Camille Candola, des centaines de personnes sont ciblées par cette opération de la santé publique. Elle n'a toutefois pas été en mesure de préciser le nombre exact. Au moment de faire cette annonce en point de presse, la Dr Candola venait de recevoir de nouveaux résultats aux tests sur les échantillons d'eau usée de Yellowknife. Ces tests ne dévoilaient pas d'accroissement du niveau d'intensité du virus. En ce moment, ce niveau est faible et indique qu'il ne pourrait possiblement provenir que d'une seule personne. Toutefois, ces résultats ne permettent pas d'évaluer avec certitude le niveau actuel de risque pour le public. Donc, on le rappelle, si vous vous trouviez en auto-isolement à Yellowknife entre le 30 novembre et le 9 décembre, on vous prie d'aller passer le plus rapidement possible un test de dépistage de la COVID-19. Il y a actuellement 42 cas actifs de la COVID-19 au Nunavut. Une accalmie après une éclosion communautaire importante qui a mené le total de cas enregistrés depuis le début de la pandémie à 229. Les 42 cas actifs se trouvent présentement tous dans la communauté d'Arviat qui est donc toujours en confinement. Les autres collectivités qui étaient incluses à cette éclosion, c'est-à-dire Sanikelwak, Rankin Inlet et Whale Cove, ne comptent actuellement aucun cas. La mine de diamants Ekati pourrait reprendre du service à partir de janvier 2021. La corporation Dominion Diamond, qui est propriétaire de la mine de diamants, qui est située au territoire du Nord-Ouest, a annoncé ce lundi 7 décembre avoir conclu une entente d'achat avec deux soumissionnaires. L'employeur serait déjà en processus de rappeler une partie des quelques 300 employés présentement mis à pied pour une probable réembauche dans les mois à venir. C'est ce qu'a indiqué le président du syndicat des travailleurs et travailleuses du Nord, Todd Parsons.
We have our membership, our entire membership will be recalled. The employer is currently engaged into a phased-in recall process, which will see the majority, if not all, of our bargaining and recalled full operations sometime in the new year.
Todd Parsons, président du syndicat des travailleuses et travailleurs du Nord, indique que le syndicat a toutes les raisons de croire que l'ensemble de ses membres seront rappelés pour travailler au cours des prochaines semaines et des prochains mois. L'employeur serait présentement engagé dans un processus de rappel par étapes des employés pour un retour en opération à un moment à déterminer au courant de l'année 2021. M. Parsons a également indiqué que le syndicat est très confiant que le tribunal de l'Alberta offrira une réponse possiblement ce vendredi 10 décembre. Selon l'entente d'achat, si la transaction devait aller de l'avant, une entité contrôlée par les entreprises DDJ Capital Management et Brigid Capital Management ferait l'acquisition de presque toutes les actions de Dominion Diamond et prendra en charge sa dette de 70 millions de dollars. Cette entente d'achat n'inclut toutefois pas la mine de diamants d'Ayavik. La minière Dominion Diamond y détient 40 % des actions et est présentement dans l'incapacité de payer sa part des frais d'exploitation. La dette entourant cette entente de co-investissement s'élevait en novembre à près de 120 millions de dollars. Les élèves du secondaire des territoires du Nord-Ouest ont jusqu'au 15 décembre pour choisir s'ils vont passer, sur une base volontaire, les examens de fin d'études pour l'année scolaire 2020-2021. Dans le cas contraire, les élèves recevront une exemption automatique de la note attribuée par l'école qui comptera pour 100 % de leur note finale. Cette décision du gouvernement des TNO s'aligne sur une décision prise par le ministère de l'Éducation de l'Alberta. Les leaders de l'éducation des territoires du Nord-Ouest, c'est-à-dire les présidences des conseils scolaires, ont été consultés. De son côté, la commission scolaire francophone des TNO invite les élèves à s'assurer au préalable qu'une telle décision n'aura pas de répercussions sur leur parcours académique. Comme l'indique le président de la CSFTNO, Simon Cloutier, les étudiants doivent bien se renseigner quant aux exigences d'admission de l'établissement post-secondaire de leur choix avant de prendre cette décision importante.
Nous, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine flexibilité qui soit offerte par les établissements postsecondaires pour cette année spéciale, cette année COVID, mais on ne peut pas le promettre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce serait peut-être important, avant de prendre cette décision-là, de vérifier, dépendamment des études que les jeunes voudraient possiblement s'inscrire pour l'année prochaine ou les années subséquentes. Et même s'il n'y aurait pas l'examen de fait qui puisse répondre aux critères d'admission.
Mais aux yeux de François Croteau, peu importe leur choix, les élèves des écoles de la CSFTNO sont en mesure de réussir ces examens.
Il y a certains établissements secondaires au TNO qui ont été obligés de modifier leur offre de service en donnant seulement qu'une journée sur deux d'éducation ou des demi-journées à des groupes d'étudiants. Donc, pour cette raison-là, le ministère a décidé de faire, c'était de donner le choix aux étudiants, parce que dans le cas de la CSFTNO, nous, on a la chance d'avoir des plus petits nombres. Donc, tous nos étudiants sont à l'école à temps plein, puis selon nous, sont déjà outillés à pouvoir suivre les examens.
Importé de Nouvelle-Zélande, le jeu, l'outil, appelons-le comme ça, était initialement destiné aux jeunes Maoris, la principale population autochtone en Océanie. Depuis 4 ans, les chercheurs de l'Université de York travaillent en étroite collaboration avec les Inuits du Nunavut pour ajuster le jeu vidéo Sparks à l'image et aux besoins de la communauté. L'adaptation canadienne est disponible en ligne depuis le 4 décembre. Ma collègue Marine Lobriot est avec nous pour nous présenter le jeu. Bonjour Marine.
Bonjour Thomas.
Donc Marine, en quoi est-ce que ça consiste ce jeu-là, iSparks?
Alors, iSparks, c'est l'histoire d'un monde fantastique dans lequel la lumière a été dérobée et donc l'équilibre de la Terre est compromis. Les avatars qui sont créés par les joueurs ont pour mission de rétablir cet équilibre perdu en relevant des défis. Donc c'est finalement un jeu de rôle. Les jeunes Nunavois sont invités à trouver des solutions et donc à s'approprier à travers le jeu les outils qui leur permettront de gérer leurs émotions. En réalité, iSparks est vu comme un jeu éducatif qui apporte des moyens, des solutions aux jeunes qu'ils transposent et appliquent par la suite dans leur vie réelle.
Un jeu donc qui aide à gérer ses émotions, comment est-ce que c'est possible?
Alors, en réalité, le jeu intègre des méthodes de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, le joueur va évoluer dans un monde virtuel qui devient au fur et à mesure très sombre. L'histoire virtuelle devient alors une transposition aux sentiments que l'on peut ressentir dans la réalité. Et suivant l'évolution, le joueur va apprendre par exemple à gérer sa colère. Il va aussi apprendre à contrôler et à contrer ses pensées plus noires, plus négatives. Donc, comme me l'expliquait Madame Bohr, qui est professeure à l'Université York et qui dirige le projet iSparks, le jeu finalement devient un outil psychoéducatif qui est mis à la disposition des jeunes pour lutter contre la dépression et l'anxiété. Donc toute la mise en scène vise à enseigner des stratégies saines et de bien-être mental dans le but finalement de renforcer la résilience et donner les clés pour résoudre les difficultés personnelles des jeunes.
Donc, on veut à la fois attirer les jeunes, là, les amuser en quelque sorte, et mais aussi leur faire intégrer cet outil-là. Est-ce que ça fonctionne, Marine?
Oui, selon des études de l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, les experts ont constaté après le lancement que cette plateforme interactive avait eu finalement le même effet sur les patients qu'une thérapie en personne. Donc, l'équipe de l'Université York, qui a travaillé sur l'adaptation canadienne, pour les jeunes Inuits, espère évidemment obtenir le même résultat.
Parfait. Et comment est-ce qu'on prend un jeu néo-zélandais et pour l'adapter aux communautés inuites du Nunavut, finalement, à l'autre bout de la Terre?
Alors, ça a été tout un travail de réflexion et de collaboration. Le jeu a été fait par et pour les Inuits. Donc, à l'été 2018, l'équipe du professeur Bohr s'est rendue au Nunavut afin de rencontrer les aînés, mais aussi les jeunes de 5 communautés de la province pendant une semaine. Pendant ce temps-là, ils ont proposé et fait tester le jeu, puis ils ont recueilli les informations, les suggestions et les améliorations à apporter pour qu'il soit complètement adapté à la culture Inuit. Et surtout, pour créer un sentiment chez les jeunes d'appartenance. C'est une formidable finalement collaboration qu'il y a eu entre la communauté inuite et les chercheurs et qui a abouti à un jeu dont la refonte visuelle est incroyable. Donc par exemple, les personnages sont inuits, ils évoluent dans des paysages arctiques, il y a aussi des dialogues en Inuktitut, tout cela dans une démarche très inclusive.
Vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on peut jouer à ce jeu-là, Marine? Et surtout, est-ce que moi, je pourrais aller l'essayer après notre discussion, par exemple?
Alors, malheureusement, non, il en est à sa phase de test, donc il est vraiment réservé aux jeunes Nunavois âgés entre 13 et 24 ans. Donc, il est disponible en ligne depuis le 4 décembre sur le site Internet.
Parfait. Donc, si vous êtes des jeunes Nunavois entre 13 et 24 ans, le jeu est à vous. C'est le temps d'aller l'essayer. Et justement, jusqu'à maintenant, est-ce que les jeunes sont au rendez-vous? Est-ce que ça semble intéresser les adolescents Nunavois?
Oui, vraiment. Le professeur Bohr disait recevoir beaucoup de réponses. Et surtout, elle et son équipe espéraient pouvoir attirer encore plus de participants pour évaluer correctement la nécessité, finalement, de Icepass pour les jeunes Inuits du Nunavut.
Parfait, c'est très intéressant. Encore, j'aurais aimé ça l'essayer. J'ai très hâte d'avoir des commentaires. Marine Lobrio, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, Thomas.
L'artiste québécois Jean-Paul Riopel est considéré comme l'un des plus grands peintres canadiens du 20e siècle. Jusqu'au 21 mars 2021, le Musée des beaux-arts de Montréal lui consacre l'exposition « Riopel à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones ». Pour en parler, j'ai avec nous le journaliste Denis Laure. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas.
Denis, vous vous êtes intéressé au rapport entre cette œuvre d'un artiste blanc du Sud et le sujet qu'il a choisi d'explorer. Avec une thématique comme celle des cultures autochtones, on présume que le Musée des beaux-arts a été au-devant des préoccupations entourant l'appropriation culturelle.
Oui, il était clairement conscient que c'était un sujet sensible. Mais d'un côté, il faut dire qu'en partant, une grande partie de l'œuvre de Riopel, qui était un des signataires du refus global, je le rappelle, c'est de style abstrait. Donc, ça ne traite pas tant que ça le flanc à des accusations de ce type-là. D'un autre côté, il y a aussi des reproductions de marques copiées à partir de livres, de technologies ou des catalogues d'exposition. Ça n'a pas été nécessairement des œuvres qui ont été conçues pour être exposées. Quoi qu'il en soit, pour faire bonne mesure, comme on dit, les commissaires de l'exposition, Isolde Riopel, qui est la fille de l'artiste, André-Anne Roy et Charles Desrochers, ont demandé à des membres des Premières Nations d'écrire des textes du catalogue. Et l'expo Riopel comprend aussi des œuvres d'artistes autochtones contemporains comme Beau Dick, Dwayne Linkslater, Alison Brenner et Luke Akup-Dangoak. Il va y avoir aussi deux tables rondes sur la notion d'appropriation et des capsules sur l'exposition réalisée par des autochtones.
Et jusqu'à maintenant, Denis, est-ce que l'exposition a suscité des critiques de la part de membres des Premières Nations?
Pas jusqu'à maintenant. Il faut dire que l'exposition est seulement en ligne, et ça depuis le 1er décembre. L'artiste et sociologue de l'art Wendat, Guy Sioux Durand, a écrit un texte dans le catalogue. C'est le seul dans l'exposition à avoir connu Riopel, hormis sa fille, évidemment. Il partage avec nous son appréhension, son analyse de cette thématique-là.
Parfait, bien, on l'écoute.
Riopel, c'est vraiment la liberté d'artiste et d'inspiration et tout ça n'est pas de l'appropriation. Je crois que Riopel avait cette culture ensauvagée de l'œil, la précision, l'observation et de toujours laisser entendre que c'est le bestiaire, que ce sont des lacs, tout ça. Il y avait cette conscience des territoires habités. Et, chose très importante, Riopel a le sens de l'hospitalité de l'accueil. Quand il est dans l'Estérel, dans les territoire à frontière entre les Anishinaabe, les Atikamekw, qui établit son atelier. C'est à partir de là qu'ils font faire ces grands voyages grâce au millionnaire Champlain Charest. Il invite les Atikamekw, il invite les Issaquan et César Néwachis, il achète même un canot qui est dans l'exposition.
Donc, un véritable échange entre l'artiste et la culture qu'il dépeint.
On peut donc accéder à l'exposition RioPel à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones par le biais du site Internet du Musée des beaux-arts de Montréal. Et croisons les doigts, si les vaccins sont efficaces, l'exposition déménage au Musée d'art Olden Art de Whistler au printemps 2021. Puis à l'automne suivant, au musée Glenbow de Calgary, ce sera toujours un peu plus près de chez nous, des territoires du Nord-Ouest. On vous invite à lire l'article complet de Denis Laure dans la prochaine édition du journal L'Aquilon. Merci beaucoup, Denis.
Et au revoir, Thomas. Bonjour à tout le monde.
À travers le monde, des artistes s'appliquent chaque année à réinventer la musique, les cantiques de Noël. Eh bien, les Ténois sont appelés, eux aussi, à le faire, cette fois-ci sur le thème de la santé publique, une initiative de Music NWT. Mon collègue Baptiste Foisy est avec nous pour nous en parler. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Donc Baptiste, vous avez parlé avec la vice-présidente de Music NWT, Jessica Payer, pour avoir des détails sur cette initiative à laquelle vous avez vous-même participé.
Oui, vous me mettez sur la touche, Thomas. Oui, tout à fait, je me suis entretenu avec Jessica Payer, qui me rappelait que Music NWT, en collaboration avec l'Association des communautés des territoires du Nord-Ouest, avait eu une pareille initiative plus tôt au printemps. On était alors au tout début là, de cette pandémie et évidemment, c'était un moment difficile pour les artistes, entre autres, puisque ne pouvant pas se réunir, ne pouvant pas se produire, c'était difficile. Et encore aujourd'hui, là, il y a assez peu d'opportunités économiques pour les musiciens à ce moment-ci. Alors, on avait lancé cette campagne. Je vais vous laisser entendre Jessica Payer.
L'Association des communautés des territoires du Nord-Ouest. Et puis, à ce moment-là, ils nous ont proposé un montant d'argent pour faire un concours vraiment pour promouvoir les messages de santé publique. Donc, on s'est dit que c'était une bonne occasion, étant donné que pour les artistes, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Puis, on a reçu là, des soumissions même familiales, etc. Donc...
Ça avait été un succès, ce concours-là. Il y avait beaucoup de gens qui avaient participé, qui étaient allés de leur petite chanson nous expliquant qu'il fallait se laver les mains ou rester à la maison.
Oui, oui, ça avait été vraiment populaire. Là. Donc, c'est une des raisons pourquoi on reprend le concours.
Donc, Baptiste, c'est une occasion pour les artistes professionnels, mais ils ont quand même la compétition. Là. Le concours est ouvert à tout le monde au territoire du Nord-Ouest.
Tout à fait. On veut entendre les ritournelles de tout le monde. Et cette fois-ci, donc, puisqu'on est dans le temps des fêtes, la règle est qu'il faut reprendre un air de Noël. Je vous laisse à nouveau entendre Jessica Payer.
Donc, le but, c'est de reprendre des chansons de Noël, mais de changer les paroles et d'y aller avec les messages de santé publique.
Il n'y a vraiment aucune limite. Là. On sait qu'il y a énormément de cantiques de Noël et il y a énormément aussi d'éléments
de
règles. Et la porte est ouverte finalement. C'est la seule règle, Baptiste.
Oui, c'est ça. On rappelle les messages là, communs qui pourraient être mis de l'avant, tels que rester à la maison durant les fêtes, évidemment des choses comme se laver les mains, porter le masque dans les lieux publics ou encore... profiter de l'extérieur aussi. Tous ces messages-là sont des messages qui sont promus par la santé publique, notamment. Bien entendu, si vous allez sur le site de Music NWT, on va vous donner une liste là, des messages les plus importants à communiquer et vous pourrez les transposer sur votre air de Noël préféré.
Voilà, ben des messages qu'on entend tellement souvent, ça aiderait probablement finalement de les entendre dans un cadre familier comme ça, dans un cadre divertissant. Pour la dernière émission Territoire d'Info de l'année, Baptiste, est-ce que vous vous prêteriez à l'exercice? C'est pour le bien de la santé publique, évidemment.
Bon, vous me brûlez le pourpoint, Thomas, mais je veux bien.
Vous n'étiez pas prêt à ça, hein?
C'est pas du tout préparé, non.
Quel serait votre cantique de Noël préféré, Baptiste?
J'aime bien la chanson War is Over de John Lennon.
War is Over de John Lennon. Est-ce que vous voulez aussi un thème de santé publique où je veux...
Allez-y, donnez-moi un thème de santé publique.
Thème de santé publique. En ce moment, il est important de se faire tester si on a des symptômes.
Mm-hmm. OK. Il faudrait que je me... OK, on reprend. J'ai comme une petite toux. J'ai de la fièvre aussi. Deux symptômes de réunis. Je vais me faire dépister.
C'est excellent, on s'en tient à ça. Bravo, Baptiste. Je vous garantis, auditrice, auditeur, c'était improvisé.
Oui, et si vous avez vous-même là, une meilleure performance à livrer que la mienne, vous avez jusqu'au 13 décembre pour livrer vos messages sur vidéo en passant par le site de Music NWT. Et on recherche particulièrement des chansons en français et en langue autochtone. Alors, allez-y fort.
En français et en langue autochtone. Donc, vous avez la fin de semaine, finalement, jusqu'au 13 décembre, pour envoyer votre fichier audio. Baptiste Foisy, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes.
Joyeux Noël, Thomas.
Et voilà, c'était vos actualités de la semaine. Et oui, vous avez bien entendu, c'était la dernière émission de la saison 2020 de Territoire d'Info. N'ayez crainte, on vous retrouve à partir du 15 janvier 2021. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'initiative du journalisme local. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes, une excellente fin d'année et une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.